Virginie Fulpin.
Il est 20h06 sur RMC, l'intégrale Tour continue jusqu'à 21h. Je vais vous rappeler les principales infos sport du jour. Déjà une médaille pour l'équipe de France au championnat du monde d'escrime. Cécilia Berder, médaillée d'argent au sabre. Elle s'est inclinée en finale contre la Russe Sofia Velikaya, 15 touches à 12. Un 14 juillet olympique, une centaine de sportifs invités au feu d'artifice au Trocadéro avec le président de la République pour soutenir la candidature de Paris à l'organisation des JO de 2024. Sur le marché des transferts, les clubs anglais continuent de dépenser à tout va. Manchester City a fait signer l'attaquant anglais de Liverpool, Raheem Sterling, pour près de 70 millions d'euros. Il a signé pour 5 ans. Mais ce dont tout le monde parle ce soir, c'est cette victoire écrasante de Chris Froome sur la première étape de montagne du Tour de France. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon sont en place. Rebonsoir à tous les deux.
Bonsoir Virginie.
Alors vous connaissez le numéro, hein, c'est 32-16 pour parler à Lucho et Bourgui, pour poser vos questions, pour faire vos remarques. Après cette victoire de Chris Froome, il y a aussi Twitter bien sûr, avec le hashtag RMC Live. On est encore un peu sous le choc, hein, je vais vous dire messieurs, parce que oui, c'est vrai que cette victoire, bon, elle pouvait arriver, mais comme ça, aussi frappante, ouais, on s'attendait pas forcément à ça.
Pourtant, on aurait dû s'habituer à ça, puisque il y a deux ans, il nous a fait la même, dans les Pyrénées déjà.
Oui, plateau, mais depuis, il y a eu une année où on a oublié, peut-être.
Oui, mais on se disait qu'il y avait une adversité qui pouvait le contrer. C'était mal le connaître.
Mais alors, cette victoire de Chris Froome, c'est vraiment parce qu'il est le meilleur, ou je vous cache pas que les suspicions sont nombreuses, hein, ce soir, on en a déjà beaucoup parlé, ou donc on a raison de se demander si tout ça est bien normal?
On peut s'interroger toujours, mais de toute façon, il a montré qu'il était meilleur. Il faut partir du principe qu'il y a des contrôles antidopage pour tout le monde, surtout pour le maillot jaune. Tous les jours, il est obligé d'aller satisfaire le contrôle antidopage. Donc, mais on s'interroge. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je m'interroge surtout sur la performance de l'ensemble de son équipe. Voilà. Alors, Richie Porte qui fait toute la montée et qui tient en respect tout le monde et qui même arrive à faire sauter tous les autres adversaires sauf Quintana. Il revient sur Quintana ensuite et il le coiffe. Chapeau. Non, mais de toute façon, ça n'enlève pas que Richie Porte et Froome sont de grands et de solides gaillards et des gars super forts, hein, c'est clair.
Non, mais parce qu'au début du tour, on parlait des quatre fantastiques, Bon, en fait, il n'y en a qu'un.
Eh oui, enfin oui, il y en a un deuxième là qui est un petit peu derrière, mais Moribon. Voilà, il a limité un petit peu la casse, mais bon, ceci dit, il faut pas l'enterrer non plus le Quintana, mais c'est vrai qu'il a fait une démonstration de force incroyable aujourd'hui, Froome. Ceci dit, c'est peut-être pas étonnant par rapport à la préparation physique qu'il a eu les semaines précédentes, l'organisation autour de l'équipe, et comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est comme une équipe de rugby, une équipe de foot, hein, il prépare des coupes du monde, il la prépare pour
les autres coupes
du monde. Mais comment?
Et les autres,
mais
non.
Les autres, oui, mais peut-être qu'ils ont mieux préparé le tour que les autres, c'est tout. Voilà, c'est tout. Hein. Il faut en tirer les conclusions comme elles arrivent aujourd'hui. Hein. Elles sont arrivées aujourd'hui. Donc voilà, Froome a gagné, il était au-dessus du lot, et puis point barre. Hein.
Mais point barre, ça veut dire que le tour est terminé ce soir? Il est pour Froome?
Bah, disons qu'il est terminé, oui et non. Non, on peut pas dire qu'il soit terminé aujourd'hui, Virginie, parce que tu sais, bon, un sportif de niveau, même si Froome, il était au-dessus de tout le monde aujourd'hui.
Il
peut avoir un coup de moins bien un jour, mais bon, voilà, vu la motivation qu'il a et l'état psychologique qu'il a après cette fameuse étape, je vois mal comment il peut avoir un coup de moins bien dans les prochains jours.
Et Lucho, il a engueulé même les spectateurs qui couraient. Bon, c'était un peu chaud, hein. 2 kilomètres de l'arrivée, c'est vrai que les gars ne laissaient absolument rien.
Mais c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de se débrouiller avec leurs bras pour pouvoir passer. C'est vrai que c'est compliqué quand même.
Et ça l'a freiné, ça l'a peut-être encore freiné.
Mais ça a freiné aussi Quintana derrière. Ça a été pareil pour Quintana derrière. Hein. Donc bon, c'est vrai que c'était une image qu'on n'aime pas voir.
Non, oui. Là, et en plus avec tous ces drapeaux devant eux, le moindre drapeau s'accrochant, on a vu avec Armstrong il y a quelques années, la musette qui s'accroche à son cintre et puis il se retrouve par terre. Donc On demande encore aux spectateurs de prendre un peu de recul et de pas courir à côté des coureurs.
On va faire attention. Richard nous appelle au 32-16. Bonsoir Richard.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Richard.
Bonsoir Richard.
Richard, vous avez regardé cette étape dominée, archi-dominée par Chris Froome?
Oui, ben, comme tout le monde, je pense, enfin, comme tous les amateurs de vélo. En tout cas, j'ai été surpris par l'impression de force dont il a fait preuve. Et moi, je voulais poser la question aux spécialistes, c'est qu'en fait, je me souviens les dernières d'un débat qui avait eu lieu sur RMC. Et c'était au lendemain, enfin, c'était le soir même de l'étape de l'Otacam. Où c'est que la question était si le Tour de France 2014 était un peu dévalorisé du fait de l'absence des trois autres grands favoris, Quintana, Contador et Froome. Mm-hmm. Et donc, il y en avait qui disaient que non, qu'ils pensaient qu'il y avait eu une évolution par rapport aux cyclistes français, etc. Et aujourd'hui, moi, j'avais des collègues dans la voiture, on avait été surpris aussi quand même. Et aujourd'hui, je m'aperçois que entre Froome, Quintana encore à une minute, et le reste du peloton qui dominait le tour l'année dernière, donc Perrault, Bardet, Nibali, etc. Je les vois à 5 minutes, je me demande si aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment, sur une première étape de montagne entre Froome et les favoris de l'année dernière, 5 minutes de différence, quoi. C'est vraiment, c'est une domination outrageuse, pour moi.
Oui, c'est même pas sur les coureurs qui étaient là l'an dernier, puisque il met du temps à tout le monde et le deuxième c'est son équipier, il prend déjà une minute. Donc Quintana, le meilleur grimpeur, il est à plus d'une minute. Contador, n'en parlons pas, et puis les autres, c'est vraiment une domination outrageuse, c'est vrai, sur l'ensemble des coureurs.
Mais c'est vrai que le podium de l'année dernière, là, ils sont très loin.
On l'avait dit l'an dernier, il y a eu aussi des circonstances de course qui ont fait que ça a un peu arrangé les choses. Mais il n'y avait pas une telle différence. Voilà.
Moi, ce que j'apprécie, en tout cas, sur RMC, c'est la libre antenne, la liberté de ton, par rapport peut-être au diffuseur principal qui est France 2, où on voit les journalistes un peu plus, peut-être, un peu plus réservés. Et en tout cas, ce que je vois, c'est que bon, encore sur Contador, on peut avoir l'argument de dire qu'il a fait le Giro, qu'il arrive émoussé. Mais Quintana, cette année, s'est consacré totalement au Tour. Il prend une minute la première étape. Les Français, je veux bien qu'ils aient mal géré peut-être le jour de repos, comme l'a dit Sylvain Sky. Mais j'ai écouté Cyril Guimard et je suis totalement d'accord avec lui. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots en disant qu'il n'y a que Sky qui a bien géré l'étape de repos. Et donc, les 80 autres coureurs sont des idiots, quoi. Ça me surprend de voir Richie Porte qui l'année dernière est à 40 minutes, qui met une dernière accélération à Quintana. Je suis circonspect.
Oui, donc c'est aussi sur l'ensemble de l'équipe Sky. Hein. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, oui, tous les deux.
C'est plus l'ensemble de l'équipe que la performance de Froome.
Il y a des tours où on est bien, comme l'année dernière. Il y en a qui étaient bien l'année dernière, hein, les Français, et qui sont très mal cette année. Oui, alors, si on doit dire Porte, il est à 40 minutes l'année dernière, et cette année, c'est pas normal qu'il soit devant. On va dire Pinot, il est à la rue cette année, et c'est pas normal qu'il soit devant l'année dernière. C'est ça? C'est ce qu'on veut dire?
Non, c'est pas, mais l'autre chose, en fait, le truc, c'est aussi que l'année dernière, on s'est très, Froome, était pas là, puisqu'il était tombé. Enfin, donc, on n'avait pas de comparaison possible entre ceux qui étaient sur le podium l'année dernière et quelqu'un comme Chris Froome qu'on voit là s'envoler vers la victoire.
Ben oui, mais de toute façon, il n'y a pas eu la concurrence qui devait y avoir l'année dernière. Donc voilà, Froome n'était pas là, Contador n'était pas là, Nibali n'avait pas de concurrence, je dirais, directe l'année dernière au niveau du classement général. Je ne veux pas minimiser la performance des Français, bien au contraire. Mais les grands favoris n'étaient pas présents sur le Tour. Même Quintana, il n'était pas là. Il avait fait le Giro, il avait fait son Giro, il avait fait l'impasse sur le Tour de France pour Valverde. Donc voilà. Après, c'est vrai que le Tour n'était pas du tout le même que celui de cette année. C'est clair. Donc, quand il y a un manque de favoris sur le Tour de France, comme les Contador, Froome et Quintana, c'est vrai qu'après, les tours ne sont peut-être pas du tout les mêmes.
Merci Richard d'avoir appelé le 32-16.
Merci à vous.
Merci.
RMC.
À bientôt.
Bientôt.
Et sur Twitter, avec le hashtag RMC Live, il y a Tikris qui se demande si il faut pas plutôt attaquer Froome dans les descentes. Est-ce que ça pourrait être une solution?
On va mettre des vachettes. Je pense qu'il y a que ça, hein, des vachettes, des chiens. Non, ne le faites pas, hein, surtout.
Non.
Et les vachettes, c'est catastrophique.
Est-ce qu'il est, il y a d'autres coureurs qui sont meilleurs que lui en descente? Donc, est-ce que ça peut être une solution ou pas?
Faites traverser les belles-mères.
Mais non, c'est pas là où il y aura une différence entre Froome et puis ses adversaires, ses principaux adversaires. Moi, je veux bien, ils font ce qu'ils veulent, mais je conseillerais pas à mes coureurs d'attaquer Froome dans une descente, quoi. De prendre des risques inutiles pour prendre peut-être 10 secondes ou 15 secondes en bas de la descente.
Et se prendre 5 minutes dans la montée, quoi.
Voilà, donc c'est...
De toute façon, c'est problématique.
Si Froome doit exploser, il explosera dans une ascension, dans un col.
Tu penses qu'il va le faire, ça?
Non, mais bon, je te dis...
Tout le problème est là, c'est que aujourd'hui, on se dit pas qu'il va exploser quelque part. On se dit, c'est terminé, il va gagner le Tour de France. En fait, la manière dont il a gagné cette étape fait beaucoup parler parce qu'on se dit il avait même pas l'air de souffrir. Il y a toujours ce côté souffrance.
Le pédalage aussi, franchement.
Sa fréquence de pédalage, oui.
Et oui, la fréquence de pédalage, bon, on peut le faire pendant un certain temps, mais là, il fait 4-5 kilomètres à 110, 115 tours minute. C'est exceptionnel. Bon, ça, on l'avait déjà dit. Je le répète, l'interrogation, moi, c'est simplement que j'ai l'impression de revivre quelques années en arrière. C'est tout.
Alors, voilà. À ce propos, puisqu'on sait à quoi tu fais référence, bien sûr, à Lance Armstrong qui a réagi, oui. En se disant, alors, est-ce qu'il est trop fort pour être honnête? Et il a dit, me demandez pas à moi, j'en ai aucune idée.
Il fait de l'humour en plus.
Voilà. Cela dit, c'est plutôt drôle. Hein. Enfin, vu ce qu'on sait maintenant, ce qu'il dit est plutôt drôle. Il n'empêche qu'il met quand même ça sur le tapis lui aussi. Et s'il y a une personne qui est bien placée pour en parler, c'est quand même bien Lance Armstrong.
Non, mais là, il se moque du cyclisme mondial, en fait. Il se dit, vous m'avez enfoncé. Vous m'avez critiqué, et là...
Avec tout le respect que j'ai pour Lance Armstrong, je crois qu'il devrait rester dans son canapé. Lance, il peut regarder la télévision.
Il arrive.
Bon nombre de téléspectateurs ou écouter la radio, mais là, si tu m'écoutes, j'ai dit, ne parle pas, surtout, parce que de toute façon, si tu dis quelque chose, les gens ne vont pas t'écouter, et ce n'est plus crédible de ce que tu peux dire maintenant.
Ils l'ont écouté,
la preuve, on en parle maintenant, et on ne devrait même pas faire un débat. Mais voilà, c'est tout.
Il peut quand même parler. Il faut laisser parler les gens.
Oui, mais il peut parler, mais on n'a pas besoin de relayer ce que dit Lance.
C'est quand même gênant si on peut pas relayer.
Journalisme, c'est ça.
Oui. Et puis,
moi, je suis pas journaliste, je suis consultant. Moi.
Lucho, je veux aussi te dire que la plupart des gens qui nous appellent au 32-16 ce soir ont cette suspicion. Donc nous, on fait aussi que traduire ce que pensent les gens ce soir.
On va par exemple. Je suis d'accord, Virginie, mais ils n'ont pas tous la suspicion, les gens, le public. Tu fais un pourcentage de ceux qui ont la suspicion et de ceux qui ne l'ont pas. Tu seras peut-être surprise du pourcentage de ceux qui l'ont pas. Donc il faut, c'est pas parce que sur les 100 personnes,
pas,
non mais c'est pas pour, c'est
non,
pas
non,
parce,
mais
non à la limite 100 per, sur 100 pose. Personnes, c'est pas parce qu'il y en a 20 ou 30 qui ont la suspicion sur Froome aujourd'hui qu'il faut en faire un débat national, alors qu'il y en a 70 peut-être qui n'ont pas de suspicion sur lui.
La majorité des appels qu'on a, c'est quand même pour parler de ça. Mais bon, Charles, lui, ne veut pas parler de cette suspicion. Bonsoir, Charles.
Oui. Bonsoir l'équipe. Non, en fait, Virginie, bonsoir, la vérité, Charles. C'est que moi, je suis pas là pour nier la suspicion, hein, peu importe. Moi, je dis simplement que Sky, ils sont constants par rapport à ce qu'ils font depuis 3 ans avec Froome. Froome, il fait pas une démonstration plus importante que ce qu'il a fait au Ventoux il y a 2 ans. En revanche, le vrai souci pour moi, c'est les leaders. Hein. Que ce soit même Quintana, il prend une minute, c'est limite, mais les autres, que ce soit Nibali... Valverde et compagnie, ils sont à la rue complet. Ils n'arrivaient même pas à suivre Pierre Roland et Tony Galopin. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Tony parce que j'ai couru avec lui. Et il n'a pas à larguer Nibali, Pinot, Bardet, Hero, et j'en passe et les meilleurs. Et même Contador qui prend une minute. C'est hallucinant. C'est ses adversaires qui ne sont pas au niveau.
Alors, pourquoi c'est pas Froome qui est trop fort, c'est les autres qui ne sont pas assez forts.
Non, mais après, effectivement, Froome aussi, pédaler à 110 tours minute, moi je fais un peu de vélo, pédaler à 110 tours minute d'en dépendre à 8, 9, 10, 11%, c'est impossible. Très honnêtement, là, il ne faut pas nous prendre non plus pour des jambons. En revanche, les autres, ils sont cramés aussi. Donc, ça accentue plus l'écart. Hier, j'écoutais tous les soirs. Hier, j'étais d'accord avec Cyril là, quand il disait qu'aujourd'hui, c'était plutôt une arrivée pour Valverde, une arrivée en petit groupe, qui aurait pas trop d'attaque parce que les derniers kilomètres étaient en faux plat montant. Moi, j'étais quand même très surpris. Je sais pas ce que vous en pensez, surtout Lucho et Thierry. Là, c'est du jamais vu. Les mecs, ils arrivaient un par un avec des écarts monumentaux. C'est hallucinant.
Ouais, mais ils ont fait monter dans le dur. Ils ont fait monter très très vite.
Ah, mais comme d'habitude.
Movistar a durci la chose au pied. Et après, la Sky a vraiment accéléré un maximum. Ouais. Mais après, Charles, juste simplement, c'est même pas le Ventoux, c'est simplement la première étape des Pyrénées et la première étape de montagne du Tour il y a 2 ans. Je te rappelle qu'on est arrivé au plateau de Bay. Il a fait exactement le même scénario. Et Froome n'a peut-être pas fini deuxième, mais pas loin. Je crois que c'est le troisième ou un truc comme ça. Et il avait fait monter et il avait roulé juste avant le col, juste le pied du plateau de Baye. Donc c'est simplement ça. Voilà. Bon, après maintenant, passons au sport. Et puis voilà, mais on peut s'interroger quand même.
Oui, on peut s'interroger. Merci beaucoup Charles d'avoir appelé le 32-16.
Merci Charles. Allez.
Et Lucho, je te le répète, hein, c'est pas ma volonté spécifique, c'est juste que on essaie de traduire ce qui se passe.
Hein. On a le droit d'en débattre, Virginie, je dis pas le contraire.
Voilà, on doit en débattre et Laurent nous appelle au 32-16 pour en débattre lui aussi. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Virginie, bonsoir Lucho, bonsoir Thierry.
Salut.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir, écoutez, on va parler franchement. Enfin, moi, je vais vous dire franchement ce que j'en pense, que, comme je pense beaucoup d'auditeurs.
Tu es un passionné du Tour de France, Laurent?
Oui, je regarde surtout essentiellement dans les étapes de montagne, puisque je pars du principe que c'est là généralement où se joue un Tour de France, et c'est là où c'est quand même le plus intéressant, puisque c'est là où on voit la force des cyclistes. Donc c'est vrai que ça se joue dans les montagnes. Bon, maintenant, moi, je ne vais pas vous clasher clairement que c'est un sport pour moi qui a perdu véritablement toute crédibilité depuis une vingtaine d'années. Je pense que là, j'entendais Lucho qui disait par exemple que Lance Armstrong n'avait pas le droit de s'exprimer. Ben écoutez, il s'est fait défoncer à juste titre, je dis bien à juste titre, parce qu'il a été dopé ou pas. Je vois pas pourquoi il n'émettrait pas un avis sur Chris Froome, qui clairement a montré des capacités surhumaines. Ce monsieur qui a gagné le Tour de France il y a 2 ans, qui l'année dernière s'est fait oublier puisqu'il était blessé, puis bon, puis là qu'il revient, donc il fracasse tout le monde. Bon, écoutez, je veux bien qu'on fasse des analyses cyclistes sur le pourquoi du comment, la défaillance des Français qui tournaient l'année dernière, qui ne tournent pas cette année, la force de Sky et compagnie et tout. Bon, voilà, je veux dire, par là, il y a un moment donné, faut dire clairement les choses. Je pense que ce sport, à un moment donné, va devoir, à un moment donné, mettre les choses clairement sur la table, qu'il y ait des pratiques, et soit on les légalise, soit on les légalise pas, parce que chaque année, ça revient systématiquement. Lucho, Thierry, je vous avais eu l'année dernière, chaque année, j'ai l'impression qu'on fait toujours les mêmes débats, donc il y a un moment donné, ça suffit, voilà, quoi. On a l'impression d'être systématiquement floué, donc ça devient vraiment pénible, en fait.
Laurent, je suis d'accord avec toi. Armstrong a le droit de juger les performances de Froome alors qu'il a été descendu exactement et qu'il avait il a tous ses torts. Hein. Il a triché. Il fallait qu'il paye. Il y a pas de problème. Mais ce qui me dérange aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est qu'il y a 10 ans, on essayait de se persuader que c'était par le travail, par l'organisation et que les autres ne savaient pas faire. Voilà, c'est surtout ça. Bon,
ce qui me dérange, Thierry, oui. Je te coupe, excuse-moi, ce qui me dérange, et surtout à Lucho, c'est que on sent en plus dans vos propos qu'il y a clairement un malaise. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on le sent qu'il y a un malaise dans vos propos.
Mais on le dit,
vous
connaissez
très bien.
Ah oui, la
question. On sent le malaise, donc bon, voilà.
Non mais Laurent, on l'a dit, le problème, on s'interroge sur les perfs de la Sky et de From.
Tout à fait.
Bon, après mettre plus de choses en place pour éradiquer quoi que ce soit.
De toute façon,
aujourd'hui, il n'y a rien de concret. On peut pas débattre sur un éventuel dopage puisqu'il n'y a pas de dopage avéré. Et c'est tout. Et
non,
pourtant,
attends,
il y a
Thierry.
Tous les contrôles qui sont faits.
Thierry.
Voilà.
Mmh.
Et
Thierry.
Plus que dans les autres sports.
Thierry. De toute façon, à chaque fois qu'on revient sur le Tour de France tous les ans, c'est toujours le même débat. Ça ne changera jamais. Tant que le Tour de France et le cyclisme survivra, et vivra plutôt, on fera toujours les mêmes débats tous les ans. Donc voilà. Mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse aussi les mêmes débats. Dans... Alors tu vas me dire, Virginie, oui, oui, mais là, on parle de vélo, on ne parle pas des autres sports. Je suis d'accord.
Mais voilà.
Je suis d'accord. Mais alors, je veux quand même te donner une petite précision. C'est quand même sur tous les contrôles antidopage dans la saison, tous sports confondus, le cyclisme arrive en 7e position avec le plus de contrôles positifs. Et c'est le sport le plus contrôlé au monde. Alors, trouve la faille. Je veux bien qu'on parle du cyclisme, je veux bien qu'on parle du dopage, je veux bien qu'on parle de tout. Mais quand on regarde les statistiques, le 7e sport où il y a le plus de contrôles positifs, c'est le cyclisme.
Et mais
c'est
le cyclisme,
et c'est le cyclisme qui est le plus contrôlé au monde. Et alors, on en fait un pataquès à chaque fois. Et on jette la suspicion sur Froome alors qu'il n'y a aucun indice de dopage pour l'instant sur Froome.
Bah, j'espère qu'il n'y en aura aucun. Alors, on parle des indices.
Tu parles de Lavillenie là, qui a sauté, non, qui a battu le record du monde de Bubka. Alors on pourrait dire la même chose.
Loucho,
on ne peut pas tout mélanger.
Mais quoi, on mélange pas les choses.
Après l'affaire d'Armstrong, on ne peut que s'interroger, Loucho.
Mais vous faites toujours un pataquès.
Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre?
Quand l'équipe de France de rugby a gagné la Coupe du Monde en 98, est-ce qu'on a fait un débat de savoir s'ils étaient contrôlés positifs?
C'était du foot, mais
oui. Ben alors, est-ce qu'ils étaient contrôlés positifs à l'EPO ou pas?
Loucho, si tu ne me laisses pas répondre, on va avoir du mal.
On n'a pas fait de débat. Bon, mais voilà.
Non, mais là, on fait un débat.
Non, mais bon, j'essaye de...
Laisse parler Virginie, s'il te plaît.
Juste, je dis qu'on fait un débat parce que vous-même, depuis tout à l'heure, et ce qui est normal, on a regardé, on a vu Froome s'imposer avec, vous l'avez dit vous-même, une fréquence sur la pédale un petit peu anormal, avec aucune souffrance sur le visage, c'est-à-dire une façon de gagner.
Je vais continuer ma phrase
et ensuite tu me répondras, d'accord? Avec aucune souffrance apparente sur le visage, c'est-à-dire des images qui nous rappellent vaguement quelqu'un, en l'occurrence Lance Armstrong, qui a passé des années à mentir et qui ensuite a été pris et qui a fini par reconnaître que oui, effectivement, il avait triché. Donc c'est pour ça qu'on se pose cette question. Maintenant, c'est un débat qu'on reprendra demain,
tu sais,
parce que là, on a plus
sur un vélo, quand tu fais des efforts maximaux, t'en as qui amènent, tu vois la souffrance qu'ils ont au fond d'eux, et il y en a d'autres qui expriment pas cette souffrance-là sur le vélo.
Peut-être, voilà. Tout à fait, simplement.
C'est une souffrance intérieure chez Froome. Moi, quand je souffrais sur le vélo, ça se voyait. Ben, Froome, ça se voit pas. Ou d'autres.
Eh ben, peut-être, mais on a le droit aussi de se poser la question.
J'aimerais qu'on ait le droit de se poser la question sur les autres sports aussi.
Très bien, Loucho. On va quand même se retrouver demain parce qu'on n'est pas si fâché que ça.
On débat. Tu sais que je t'adore.
Mais voilà, on se retrouvera demain donc pour la deuxième étape pyrénéenne dès 14h pour l'intégral tour. Et puis nous, Loucho, Bourgui, demain 20h, même heure, même endroit.
Merci Virginie. Allez, bisous à tous.
Et puis toutes les infos sur le Tour de France, c'est sur rmcsport.fr. À tout de suite pour le foot.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h32, l'intégral tour, c'est jusqu'à 21h et c'est l'heure de parler football. Maxime Gonallon est notre invité, le capitaine de l'Olympique Lyonnais. Bonsoir Maxime.
Bonsoir à vous.
Alors ça y est, encore un début de saison avec Lyon. Pour vous, c'est quasiment une routine maintenant, hein. Tous les ans, c'est la même chose.
Je ne sais pas si c'est une routine, mais c'est vrai que je vais entamer ma 7e saison avec l'Olympique Lyonnais en professionnel. Donc voilà, ça montre le chemin que j'ai pu parcourir et aujourd'hui, voilà, je suis prêt pour cette nouvelle saison.
Alors c'est une nouvelle saison un petit peu particulière, d'abord parce que vous retrouvez la Ligue des Champions. J'imagine que ça, c'est un objectif tout particulier, même quand on est au mois de juillet, on y pense déjà. Hein.
Oui, forcément. La saison dernière, on s'est donné les moyens d'y arriver, on a fait énormément d'efforts, on s'est donné les moyens de retrouver la Ligue des Champions, une compétition qui nous manquait, je vous le cache pas, parce que on l'a connue pendant de nombreuses années ici au club, donc forcément de la rejouer, ça va être des grands moments et on a vite on a hâte d'en découdre dans cette compétition.
Est-ce que vous pensiez sincèrement l'année dernière finir aussi haut et séduire autant de monde avec le jeu développé par l'Olympique Lyonnais?
Franchement, je pensais pas qu'on allait finir deuxième du championnat. C'est vrai qu'on a eu un début de saison compliqué avec cette élimination dans les tours préliminaires de l'Europa League. Donc forcément, ça a été peut-être un mal pour un bien. On a pu essentiellement se concentrer sur le championnat. On joue un match par semaine. Mais franchement, je pensais pas qu'on allait atteindre un tel niveau et finir deuxième du championnat. Mais à partir du moment où on a pris conscience qu'on avait de la qualité dans le groupe et qu'on faisait en sorte de se donner les moyens d'y arriver, là on a pris conscience qu'on avait de la qualité et qu'on pouvait faire de grandes choses dans cette saison-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de retrouver la Champions League avec le groupe que l'on a, c'est vrai que c'est une grande fierté.
Et finalement, est-ce que vous vous dites pas, on n'a pas fini si loin du PSG, pourquoi pas cette année finir devant ?
Oui, alors cette saison va être différente. On va jouer tous les trois jours, bien évidemment, par rapport à la Champions League. On va avoir quatre compétitions à jouer. Donc voilà, après on va essayer de faire aussi bien que la saison dernière. Les objectifs à Lyon sont toujours élevés. On a énormément de pression, on se doit de jouer la Coupe d'Europe chaque saison. C'est vital pour le club, c'est vital pour nous. Et voilà, aujourd'hui, il faut prendre conscience de ça et essayer de se donner les moyens pour faire aussi bien que la saison dernière.
Et quand vous dites, c'est vrai que ça va être différent parce que vous allez jouer tous les trois jours, il y a des joueurs qui ont prolongé leur contrat à Lyon récemment, la semaine dernière notamment. Oui. Est-ce que vous pensez que ça y est, là, vous avez une équipe qui peut lutter sur les deux tableaux, sur championnat et Ligue des Champions ?
Oui, et puis il y aura les coupes nationales aussi, qui ne sont pas à négliger, qui sont importants pour nous aussi. Mais c'est vrai que la saison qui va arriver va être différente. Il n'y a pas grand nombre de joueurs qui connaissent la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, ça demande un niveau d'exigence assez élevé. C'est la plus belle des compétitions européennes. On joue face aux plus grandes équipes en Europe. Et c'est pour ça que je vous dis que cette saison sera complètement différente. On va enchaîner tous les trois jours. Et
vous, qui avez l'expérience de la Ligue des Champions, vous en parlez aux autres ?
Là, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, mais forcément, les plus anciens, ceux qui connaissent cette compétition, on est quelques-uns à en faire partie dans le groupe. Forcément, on aura un poids là-dessus. Il faudra faire en sorte de mettre dans les meilleures conditions les plus jeunes, mais personnellement, je ne me fais pas de soucis. La saison dernière, on a quand même joué des gros matchs en Ligue 1 et les jeunes ont bien répondu. Donc voilà, il va falloir apprendre au fur et à mesure de la saison.
Il paraît que Jean-Michel Aulas vous consulte, notamment quand il fait signer une prolongation ou si jamais il veut faire signer un joueur à Lyon.
Oui, alors après, il faut pas tout prendre et tout lire ce qui se dit dans la presse, mais forcément, on a des contacts, on essaie de communiquer, mais après c'est lui le boss, c'est lui qui prend les décisions et pour le moment ça se passe plutôt pas mal.
C'est lui le boss et d'ailleurs on le voit partout, c'est un président omniprésent. C'est quelque chose que vous appréciez, vous, ou parfois ça vous agace ? Vous pouvez le dire, hein, je vous assure, ça le gêne pas.
Non, pas du tout. Vous savez, c'est un président qui est là depuis de nombreuses années, il défend son club à le mieux possible et voilà, il connaît très bien le monde du football. Personnellement, moi, ça me dérange absolument pas et tout ce qu'il peut faire, même si ça peut gêner certaines personnes, il le fait pour le bien de son club.
Maxime Gonallon, on en est où pour Alexandre Lacazette ? Il va rester ? Il va s'en aller ?
Ça, c'est une bonne question. Il faudrait lui poser personnellement, mais en tout cas,
il vous en parle à vous forcément.
Je sens Alex bien présent dans le groupe, la tête à l'Olympique Lyonnais. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri, du moins le club, de recevoir une offre assez importante et de pouvoir résister. Donc c'est difficile de répondre. C'est son cas personnel, Mais en tout cas, je pense qu'il a envie de continuer l'aventure avec avec Lyon.
J'imagine que vous, en tant que capitaine, vous, vous parlez à tous les joueurs. Il y a un euro qui se dessine à la fin de la saison. Donc la stabilité, c'est souvent privilégié par les joueurs. J'imagine que c'est un argument que vous utilisez aussi.
Oui, alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que cette saison, elle est importante pour un grand nombre d'entre nous. On a retrouvé la Champions League. Il y a le grand stade qui va arriver... dès le mois de janvier, nous, pour les Européens, on a un euro qui va arriver en fin de saison prochaine, du moins en fin de saison 2016. Voilà, il y a beaucoup d'objectifs importants, mais comme je dis souvent, chacun décide de sa carrière comme il le souhaite. Et après, j'ai pas... j'ai pas à lui dire quoi que ce soit. Il a la tête bien faite et il prendra la meilleure décision possible pour lui.
Pour vous, personnellement, cet euro, c'est un objectif? Vous en avez fait l'objectif prioritaire de cette saison qui s'annonce?
Oui, totalement. C'est l'un de mes objectifs, forcément. Je fais partie des derniers stages. Donc, voilà, je sais que le sélectionneur me regarde. À moi de continuer à être performant avec Lyon. La Coupe d'Europe va être un énorme plus parce qu'on va être confronté à de grandes équipes européennes. Donc, à moi de faire une grande saison pour avoir aucun regret à la fin de cette saison.
Et puis, quand vous voyez la France tomber au 22e rang du classement FIFA, ça vous fait quoi, Maxime Gonallon?
Ben, c'est vrai que c'est pas évident à entendre, mais c'est sûr que les deux derniers matchs qu'on a vécu ont pas été totalement réussis. On a malheureusement perdu les deux matchs. Donc forcément, on a dégringolé au classement FIFA. Mais je peux vous dire que dès la rentrée, on va faire en sorte d'inverser cette tendance et de remonter au classement.
Alors cet euro a lieu en France, notamment à Lyon, dans le Stade des Lumières, que vous allez connaître un peu avant les autres bleus. Vous avez hâte d'y être, vous regardez le chantier avancer. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Oui, forcément, on essaie de suivre attentivement l'évolution du chantier. On l'a visité au mois de février. Et on voit une certaine évolution depuis ce temps-là. C'est vrai que il avance à vitesse grand V et c'est vrai que d'avoir un outil comme cela à l'Olympique Lyonnais, ça peut que continuer à s'approuver sur le club.
Est-ce que pour vous c'est le symbole d'un grand club, d'un club qui a progressé?
Oui, forcément. Peu de clubs en Europe sont capables d'avoir un stade privé. Aujourd'hui, ça va être le cas à Lyon. Donc forcément, c'est un outil considérable pour continuer à progresser, pour continuer à écrire notre histoire et essayer de remporter de nouveaux titres.
Merci beaucoup, Maxime Gonallon, d'avoir été notre invité sur RMC dans l'Intégral Tour. Et bonne préparation et
merci
à très bientôt
à
sur l'antenne d'RMC.
Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.
Et comme on fait très attention à l'équilibre du temps de parole, après un Lyonnais, c'est un Stéphanois qui nous attend dans l'Intégral Tour. Jérémy Clément sera avec nous dans un instant. Nous serons également en ligne avec Patrick Gonfalon, le sélectionneur de l'équipe de France des moins de 19 ans, qualifié pour les demi-finales de l'Euro en Grèce. A tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h46, l'Intégral Tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC. Après, ce sera l'after avec Florent Gautreau. Un Lyonnais laisse la place à un Stéphanois. Jérémy Clément succède à Maxime Gonallon à notre micro. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir.
Alors d'abord, tout simplement, comment se passe cette pré-saison avec Saint-Etienne?
Bah, très bien. Bon, il y a de fortes chaleurs, mais la préparation se passe bien, on bosse bien, voilà. L'ambiance est bonne et studieuse, donc ça va.
Vous dites les fortes chaleurs, c'est vraiment très embêtant quand on commence une saison comme ça, c'est dur de résister?
Non, après je pense qu'on s'adapte, on a décalé les entraînements plus tôt le matin et en fin d'après-midi, donc voilà, on arrive quand même à supporter les chaleurs, et puis bon, c'est l'été, donc on va pas se plaindre du beau temps.
Ouais, vous vous rappellerez de vos paroles quand on sera vers le mois de janvier, là, sur des terrains enneigés.
Exactement, donc je pense que c'est plus agréable de voir le soleil.
Bon, en plus, il faut être prêt assez vite à Saint-Etienne, parce que dès le 30 juillet, là, il y a le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Donc, j'imagine que c'est ça que vous avez en tête d'abord.
Oui, c'est l'objectif. La Ligue Europa arrive très vite, le 30 juillet. Donc forcément, une préparation plus courte. Donc, voilà, faudra être prêt rapidement pour pouvoir se qualifier et lors des barrages et puis aller dans les poules.
Est-ce que vous avez vraiment envie de vous qualifier et d'aller la jouer, cette Ligue Europa?
Bien sûr, je pense qu'on a envie de faire mieux que la saison passée. La saison passée, on a vu que l'équipe qui nous a éliminés avait été jusqu'en finale. Donc, je pense que ça donne envie. Et oui, on a envie de faire mieux. Et je pense que l'objectif, c'est déjà de rentrer dans les poules. Et puis après, si on a la chance d'y être, d'essayer de sortir.
Parce que l'année dernière, moi j'avais l'impression, vous allez peut-être me contredire, hein, mais que vous privilégiez plus le championnat que cette Ligue Europa. On sentait Saint-Etienne pas spécialement à son aise dans cette Ligue Europa.
Pas du tout. Enfin, bon, en tout cas, je pense que toutes les personnes au club peuvent vous le dire. Saint-Etienne a joué la Coupe d'Europe à fond. Après, les résultats n'ont pas été très bons. On n'a pas marqué beaucoup de buts, mais en tout cas. Il y avait la volonté de se qualifier, c'était vraiment un objectif de sortir des poules, donc on a fait de notre mieux.
Et puis ça fait plusieurs années que vous flirtez avec le podium en championnat, en finissant à la quatrième ou la cinquième place. Est-ce que vous pensez que ce podium, cette année, il peut être accessible?
C'est compliqué, hein. Saint-Etienne, je pense que si je dis pas de bêtises, a le huitième budget de France. Donc forcément, quand on fait un championnat en étant à la lutte avec des équipes comme Marseille ou Monaco pour la saison précédente, qu'on a des budgets supérieurs, c'est déjà des très belles saisons. Et je pense que vraiment l'objectif de Saint-Etienne, c'est d'arriver à toujours être européen, et ce sera une saison réussie.
Être européen, oui, mais j'imagine que la Ligue des Champions, vous y pensez aussi, vous avez envie d'aller la disputer, cette Ligue des Champions, ça vous semble si inaccessible que ça à cause du budget?
C'est dur, il y a des équipes qui sont forcément mieux armées que nous, donc voilà, après, un championnat c'est long, l'année dernière, je vous le dis, on aurait pu finir troisième sur la dernière journée, ça s'est joué à peu de choses, donc voilà, je pense qu'il faut être réaliste. Saint-Etienne essaye de jouer entre un effectif pour jouer entre la troisième et la huitième place. Après, si les saisons, des fois, comme elles se passent, on peut espérer mieux, mais l'objectif premier, c'est d'être toujours dans les cinq premiers, entre la troisième et la sixième place.
Ouais, parce que quand on commence une saison comme ça, on se dit forcément, bon, déjà, la première place, c'est Paris. Vous dites ça?
Forcément, Paris est l'équipe, l'effectif le plus complet, le plus fourni, et a de grandes chances de finir en tête.
Alors, ça fait plusieurs années que Saint-Etienne a le même coach, Christophe Galtier, qui bat des records de longévité au club. C'est un avantage pour vous, joueur, d'avoir toujours affaire à la même personne comme ça?
Oui, parce qu'on sait son mode de fonctionnement. On a l'habitude de travailler ensemble, que ce soit avec le coach ou même les joueurs. Je pense qu'on est un groupe. Il y a une certaine stabilité à Saint-Etienne, donc je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. Voilà, maintenant, je peux pas vous dire comment va se passer la saison à venir à Saint-Etienne, mais en tout cas, on espère faire une aussi bonne saison qu'on a fait en 2014-2015.
Alors, à un moment donné, Christophe Galtier a dit qu'il aimerait bien s'en aller, éventuellement l'Angleterre. Il a dit que ça le faisait rêver. Ça vous a pas perturbé du tout, ça, dans le groupe?
Après, c'est je pense que c'est normal qu'on ait des envies d'ailleurs. Comme vous l'avez dit, ça fait plusieurs années que le coach est là. Voilà, après, c'est des choix. Je pense que s'il est resté, c'est qu'il y avait aussi une part de lui qui avait envie de continuer le projet avec la Saint-Etienne. Donc voilà, nous en tout cas on est content qu'il soit resté avec nous, et on espère, comme je vous l'ai dit, faire une bonne saison à la SS.
Alors donc, il y en a un, en revanche, on ne sait pas s'il va rester ou s'il va partir, c'est Max-Alain Gradel. Vous avez des informations, vous, il s'en va, il reste?
Pas du tout, j'en sais rien.
En tout cas, vous voulez pas me le dire, plutôt?
Non, je sais pas, voilà, faut voir avec les dirigeants qui gèrent le club. Moi, je suis pas au courant.
Vous êtes pas au courant, bon. Voilà. On va attendre un petit peu. Je voulais aussi savoir si En tant que, quand on joue à Saint-Etienne, le poids de l'histoire, c'est quelque chose qui est un peu lourd à porter de temps en temps, ou au contraire, ça donne des ailes?
Non, c'est une bonne chose. Je pense que tout joueur vous dira que de jouer à la Saint-Etienne, c'est une chance. C'est un public merveilleux. Il y a une histoire, il y a un passé. Et c'est, voilà, quand on est à la Saint-Etienne, on se doit de tout faire pour faire honneur à ce maillot et pour donner le meilleur de soi-même et essayer de donner du plaisir aux gens.
Et de temps en temps, vous rebappez un peu les oreilles quand même avec, oui, les glorieux anciens, etc.
Ouais, mais c'est normal. Après, ils ont fait des belles choses, donc même s'il faut pas vivre avec le passé, mais voilà, je pense que c'est normal de se souvenir des belles choses que les anciens ont fait.
En quelques mots, si je devais juste vous demander ce que serait une saison réussie, ce serait quoi pour vous, Jérémy Clément?
Une saison réussie, de refaire aussi bien que la saison passée, parce que comme je vous l'ai dit, on était pas loin du podium, ça s'est joué à la dernière journée, et voilà, si on peut aussi essayer de faire une belle aventure européenne, sortir des poules et voilà, rencontrer de belles équipes, et puis surtout continuer à prendre du plaisir, parce que je pense qu'à Saint-Etienne on est bien et on fait des belles saisons, continuer comme ça.
Merci beaucoup Jérémy Clément, voilà, d'avoir passé quelques minutes avec nous dans l'intégral tour sur RMC. À très bientôt.
Au revoir.
Et les jeunes alors? Ben oui, les jeunes, l'équipe de France des moins de 19 ans brille à l'Euro en Grèce en ce moment. Les petits bleus qualifiés pour les demi-finales, ce sera jeudi contre l'Espagne. Patrick Gonfalon, le sélectionneur des moins de 19 ans, est en ligne avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Patrick, comment vont vos joueurs alors que la fin de la compétition approche, la demi-finale, on commence forcément à penser un petit peu à la victoire?
Écoutez, ils vont plutôt bien. On a, je pense, bien récupéré nos premiers matchs. On a eu le temps de se refaire une bonne santé puisque les conditions étaient particulièrement délicates avec des températures extrêmes. Donc, on a cherché à refaire un petit peu de jus et il me semble que là, on est dans de bonnes dispositions.
Et là, les températures sont redevenues un peu plus vivables pour la demi-finale qui s'annonce.
Ils étaient redevenus vivables, mais ils attendent encore de la canicule pour la demi-finale, donc ça va pas être simple. Mais bon, on va dire que c'est pour les deux équipes, donc ça sera pas simple, mais il faudra bien le faire quand même.
Mais du coup, vous cherchez à habituer vos joueurs à ces températures caniculaires? Vous les faites s'entraîner en plein après-midi, en pleine chaleur? Comment ça se passe pour vous?
Écoutez, jusque-là, on s'était entraîné l'après-midi, mais là, depuis le troisième match, on s'entraîne le soir. Puisque on va jouer à cette demi-finale à 22h, donc c'est pas la peine d'aller piocher dans les réserves. L'après-midi, là, on s'entraîne le soir, c'est un peu plus clément, on est dans une meilleure disposition pour jouer, puis quand ce sera les conditions dans lesquelles on va évoluer, ça me semble plus important.
Alors vous avez fait un sans faute hein, dans la phase de poule, 3 victoires en 3 matchs. Vous savez que vous nous rassurez, hein, parce qu'avec la France qui est passée au 22e rang du classement FIFA, on se dit qu'au moins derrière, ça marche très bien.
Et écoutez, chez les jeunes, on a de résultats. Ça fait de nombreuses années que l'expression de nos jeunes est assez stable. D'ailleurs, un petit peu la recherche de la direction technique nationale, c'est que on n'est pas un titre comme ça tous les 10 ans et puis rien de mieux. C'est que la stabilité de nos résultats, et en l'occurrence être toujours en carré final, c'est signe de bonne santé de nos jeunes et de bonne santé de notre formation.
Les jeunes que vous avez sous vos ordres là pendant 7 euros, est-ce qu'ils ont tous une vraie chance de passer pro? Parce que c'est jeune, c'est vrai, 19 ans, donc on se dit qu'il peut y avoir des accidents derrière. Quoi. Mais là, ceux que vous avez avec vous, oui, ça va être des pros?
Oh, je pense, oui, parce que autant à 16, 17 ans, on peut avoir quelques réserves, autant là, à 18 ans, il y a quand même quelques certitudes. Je ne dis pas qu'ils vont faire tous de grandes carrières, mais il y a quand même de grandes certitudes pour qu'ils soient professionnels et qu'ils fassent de bons joueurs professionnels.
Et puis encore une question, quand on a face à soi des gamins, parce que c'est des gamins quand même, moins de 19 ans, est-ce qu'on leur parle uniquement de football ou est-ce que vous avez un discours plus large sur la vie en général?
Écoutez, c'est vrai qu'on est concentré sur le football, mais les valeurs qu'on essaie de transmettre, c'est celles de la vie de tous les jours, avec, comme on le sait tous, des valeurs d'éducation en général, des valeurs de respect, des valeurs de courage, de vertu. Donc tout ça rentre en ligne de compte et puis
avec ce qu'on a connu par le passé, semble aujourd'hui l'image que doivent donner des joueurs professionnels, notamment des jeunes. Et c'est cette image-là, des images de gens et de jeunes honnêtes, disciplinés, généreux et qui, justement, respectent les maillots qu'ils portent.
Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec nous, Patrick Gonfalon, et bonne chance pour demain. Jeudi, France-Espagne, la demi-finale de cette équipe de France des moins de 19 ans. Merci beaucoup.
Allez, au revoir.
Au revoir. Florent Gautreau vient de s'asseoir pour l'after. Salut, qui va commencer dans une minute.
L'after prend le relais jusqu'à 23h au programme Le Mercato Show, bien sûr, avec les dossiers Stambouli et Thiago Motta au PSG. Thiago Motta qui veut quitter le Paris Saint-Germain. On va parler de tout ça. Vous pouvez nous appeler, supporters parisiens, au 32-16. Gros plan sur l'Olympique Lyonnais ce soir après l'interview de Maxime Gonalon, qui était l'invité de l'intégrale Tour. Plus la Bielsa Mania, Rennes, les Verts et l'équipe de France des U19. Tout ça, c'est dans l'after qui arrive dans quelques instants. À tout de suite.